Avant-hier, mardi, l'attribution des fréquences pour la future 5G a été mise aux enchères. L'État espère en tirer au bas mot 2 milliards d'euros, mais surtout gagner en compétitivité face aux autres nations, car l'enjeu est énorme. Par exemple, on estime à 22 milliards le nombre d'objets qui pourront être connectés grâce à la 5G. La 5G qui semble donc représenter un progrès considérable, à moins que cela ne soit un danger, comme le pensent certains opposants. Certains maires écolos, par exemple, ont déjà déclaré qu'ils ne voulaient pas d'antenne dans leur ville. Bonjour Jacques Moulin.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'iDate DigiWorld, c'est un think tank pionnier dans le domaine du numérique. Auparavant, vous étiez à la tête d'un cabinet conseil spécialisé dans la transformation digitale des opérateurs, après avoir vous-même travaillé chez Orange. Bref, la 5G est un sujet que vous maîtrisez, que vous approuvez. Expliquez-nous ce qu'est la 5G et pourquoi elle est essentielle.
Alors la 5G n'est pas une simple évolution de la technologie, c'est avant tout une révolution. On a connu la 1G qui a permis effectivement la voix, on a connu la 2G qui a permis la voix plus les SMS. Certains d'ailleurs disaient que les SMS ne seraient pas très répandus. On a connu la 3G avec un Internet limité, la 4G qui a permis un débit Internet plus fort. Et la 5G n'est pas juste une évolution, c'est une révolution dans le sens où, associée à la robotique, associée à l'Internet des objets, ce qu'on appelle aussi le machine to machine, ouais, on va assister à une vraie transformation des chaînes de production, à une vraie transformation des chaînes de maintenance, à la conception même des solutions qui peuvent être apportées pour les consommateurs. Bref, c'est une révolution extraordinaire qui va être un gage de compétitivité et donc un gage de création d'emplois pour demain.
Deux exemples concrets, les voitures sans conducteur, les médecins qui opèrent à distance, et quoi d'autre ?
Alors, les voitures sans conducteur, alors, la voiture autonome...
Non, alors ça ne marchera pas. Pas tout de suite.
C'est pas pour tout de suite.
Bon, alors, exemple concret. Alors,
c'est pas pour tout de suite. Non, il y a un exemple, je crois qu'on a tous en tête, qui est les soins d'urgence.
Ouais.
Parce qu'on parle effectivement dans la médecine, de la télémédecine et des opérations à distance. C'est vrai que grâce à la 5G, compte tenu du fait que le temps de latence, c'est-à-dire le moment où on transmet finalement une donnée, le moment où cette donnée est reçue, est très, très limité.
Voilà. Les gens disent ça rame, et là, avec la 5G, théoriquement, ça ramera pas.
Exactement.
Et donc, qu'est-ce qu'on pourra faire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui ?
Un exemple tout simple. Un accident. Vous avez, on le sait, parfois une nécessité de jouer à la seconde, en tout cas à la minute, c'est évident. Grâce à la 5G, vous pourrez transmettre, eh bien, la radio, une échographie qui sera faite avec un mobile ou un autre dispositif, parce que la 5G a la possibilité, donne la possibilité de transmettre cette data. Donc, c'est un exemple tout bête. Il y en a des tas d'autres. On a des expérimentations actuellement qui sont en cours, qui sont pilotées par les opérateurs, par des équipementiers, par différents acteurs, en lien avec les collectivités locales. Et on voit bien que pour l'Europe et pour la France a pris un peu de retard d'ailleurs, pour l'Europe et pour la France, c'est une question de compétitivité et d'avantage concurrentiel.
Dans ce studio avec nous, Yves-Marie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de Lève les yeux, c'est un collectif qui a été créé il y a 2 ans pour lutter contre l'addiction aux écrans et pour encourager la déconnexion pour, je vous cite, une reconquête de l'attention. Vous avez co-signé à la fin de l'année dernière une tribune dans Libé contre la 5G dans laquelle vous affirmiez qu'il y avait un danger sanitaire et surtout social. Sur quels éléments vous basiez-vous ?
Écoutez, sur la 5G, il y a tout un tas de problèmes sur lesquels on va pouvoir revenir. Mais je pense que le premier problème dont on doit parler, c'est du problème démocratique. Parce que, comme vous le savez, les Français n'en veulent pas. Et l'ont exprimé à travers la Convention citoyenne. 98% des participants à la Convention citoyenne ont demandé un moratoire sur la 5G. Et dans les enquêtes d'opinion, on voit bien que les Français n'en veulent pas.
Elles donnent quoi, les enquêtes d'opinion ?
Ah bah, il y a le sondage OpinionWay d'août qui dit à ce que 65% des Français sont favorables à un moratoire sur la 5G. C'est-à-dire qu'ils voudraient tout simplement qu'on en sache plus avant de s'avancer.
Une seconde avant de donner la parole, Jacques Moulin, en fait, non de la tête, c'est pas vrai ? Il dit pas
non,
ça, ce sondage.
En fait, le débat se pose, est sans doute mal posé. Parce
non, mais là,
que...
il dit vrai.
Ce que je dis, c'est que le moratoire concerne principalement les ondes millimétriques qui sont pour les 26 GHz qui interviendront bien plus tard. Là, nous utilisons, dans le cadre de la 5G, des ondes électromagnétiques qui sont effectivement sur les 3,5 GHz, ouais, et qui sont d'ores et déjà utilisées, qui ont été utilisées notamment dans la technologie WiMAX. Et quand on regarde notamment ce qu'a pu dire, par exemple, l'autorité de régulation américaine, ce qu'a pu dire aussi la dernière mission qui avait été mandatée par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Industrie, etc., etc., on voit qu'il n'y a pas Et quand on compte les 3000 études d'ailleurs qui ont été faites, il n'y a pas actuellement sur les ondes qui sont utilisées pour la 5G, les 3,5, il n'y a pas de danger avéré. Donc en l'occurrence les 26 gigahertz, ça c'est autre chose. Ouais. Et effectivement l'ANSES va s'intéresser à ce sujet le premier trimestre 2021.
On parlera de la santé juste après. Yves-Marie, vous n'êtes pas un amiche à vous voir comme ça. Non. Vous comprenez quand même qu'il y a des enjeux économiques que représente la 5G. Il ne s'agit pas seulement, comme dit Éric Piolle, le maire de écolo de Grenoble, de pouvoir regarder un porno dans un ascenseur.
Bah non, mais effectivement, mais là je vois que donc on a monsieur en face qui est donc favorable à la 5G et qui nous explique que ce sera une révolution. Je pense que s'il y a une révolution qui se prépare, ce serait pas mal de pouvoir être d'accord au niveau des citoyens. Et pour le moment, les citoyens ne le sont pas. Donc moi, je partage cet avis. Je pense que j'ai pas mal d'opposition sur la 5G, pas mal de doutes. Il y a effectivement des risques sanitaires qui sont pas du tout encore élucidés. Et ensuite, évidemment, un impact écologique majeur. Et puis donc, ce qui faisait l'objet de la tribune, c'était sur l'attention humaine, puisque Lève les yeux, nous, on est engagés contre la dépendance aux écrans et les effets de la surexposition aux écrans. Je rappelle ici rapidement que les Français passent en moyenne 10 heures par jour devant un écran. Les 16-24 ans sont en moyenne 11h45 par jour. Ça, c'était avant le confinement, donc en 2019. Les chiffres de la SNAV, l'Agence Nationale de la Santé Visuelle. Mais donc, voilà. Donc
on est totalement d'accord avec vous sur ce combat. On en a parlé plein de fois ici, mais la 5G ne va rien changer.
Ah bah la 5G, le projet de la 5G, c'est d'augmenter la connexion au quotidien. Donc, d'une part, il y a les finalités industrielles dont on peut parler si vous souhaitez, mais il y a évidemment aussi des finalités pour les individus.
Et on va parler aussi de la question sanitaire, puisque le ministre, ici, sur ce plateau, en a parlé, et on a des avis à vous faire entendre, parfois même des thèses à la limite du complotisme. Vous restez avec nous, on continue ce débat sur la 5G. À tout de suite. Pour ou contre la 5G, de toute façon, elle risque d'arriver, puisque le gouvernement a lancé les enchères aujourd'hui, encore que on ne sache jamais ce qui va se passer. Il y a des maires de grandes villes écolo, pas seulement, qui réclament un moratoire. C'est encore plus compliqué à Rennes, puisque le maire de Rennes voudrait qu'on baisse qu'il y ait un moratoire sur la 5G. Or, là-bas, à Rennes, sont implantées beaucoup d'entreprises de la tech et certaines menacent de déménager s'ils ne peuvent pas tester leurs produits sur place. On va parler de la question sanitaire, parce que c'est peut-être la plus importante. Il y a deux écoles. Je voudrais qu'on entende Cédrico, il est secrétaire d'État au numérique. Il était il y a deux jours au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 et elle lui posait cette question mardi matin.
Alors Cédrico, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous garantir ce matin à ceux qui nous écoutent que le risque sanitaire est inexistant?
Alors sur ce point-là, les études académiques ou scientifiques qui sont menées depuis 50 ans, elles sont très claires. Il y a eu 28 000 études qui se sont penchées sur cette question des ondes électromagnétiques. Aucune n'a jamais mis en évidence un quelconque effet sanitaire en dessous des seuils limites d'exposition. Et sur ces seuils limites d'exposition, je rappelle que la France est l'un des pays qui a le cadre le plus contraignant. En moyenne, les Français dans la rue sont exposés à des valeurs d'exposition aux ondes qui sont 200 à 300 fois inférieures aux normes limites internationales.
Donc pas d'inquiétude à avoir. Vous
a priori,
êtes clair
à ce stade,
sujet?
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais ce que nous souhaitons...
À ce stade, oui.
À ce stade, qu'est-ce que vous dites à ça?
Oui,
vous répondez à ça, Jacques Moulin.
Absolument, absolument. Et je crois que ce que vient d'expliquer Cédric O, lorsqu'il parle des 28 000, on dit 28, on dit 30. Nous, vous savez, à l'IDAT, on a regardé déjà les 3 000 études les plus sérieuses.
Ouais.
Il est évident que sur les ondes à 3,5, il n'y a pas le risque sanitaire. Et il est vrai, comme le dit Cédric O, il est vrai en plus que les limitations qui sont apportées par la France sont très fortes. On sait, en revanche, que là où il pourrait y avoir problème, c'est lorsque l'on est au niveau des 6. Or là, on est au niveau des 3,5.
Donc, 3,5, c'est les gigahertz, c'est la fréquence.
Absolument.
Hein. C'est pas la puissance.
En revanche, là où il y a une confusion, c'est que, effectivement, pour l'industrie, on parlera des 26 gigahertz, mais ce n'est pas du tout le sujet actuel.
Dans le camp d'en face, il y a des gens comme le prix Goncourt d'Yves Van Kovelaert, personnage éminent, qui a écrit un roman très documenté. On le recevait, on parlait des 3,5 GHz, on le recevait dans Culture Média mardi, écoutez Van Kovelaert.
Wuhan, c'est aussi comme par hasard la ville désignée par le gouvernement chinois en 2019 comme zone de démonstration officielle de la 5G. Vraiment ?
Ben oui, ben bien sûr, évidemment, mais c'est très connu et ça fait partie justement de cet invraisemblable scénario du virus qui en est presque caricatural et en effet la porte ouverte au complotisme, comme si c'était fait exprès, voyez-vous. Et les effets de la 5G, les effets secondaires qui sont connus,
Qui sont connus
une augmentation. Oui, bien sûr. Il y a quand même énormément d'études qui ont été faites, et c'est pas un hasard si aujourd'hui en France, les députés, pas seulement écologistes, demandent un moratoire. Il s'agit pas de revenir au temps des Amish et de la lampe à l'huile, mais si, comme c'est prévu et comme ça a été fait, la 5G émet sur 3,5 gigahertz, qui est la fréquence de l'eau dans notre organisme. Donc, ça peut pas être sans incidence. Et par exemple, un des effets constatés a été la gueusille, la perte du goût et puis la perte de l'odorat.
Yves-Marie, là, ça va trop loin quand même. La 5G qui vous donne la perte du goût et de l'odorat.
Écoutez, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Je pense que sur la 5G, en réalité, on ne peut pas vraiment savoir, puisque par définition, ce n'est pas encore déployé. En revanche...
En Corée, c'est déployé. Dans certains coins et à Monaco.
Mais je parle sur les impacts sanitaires, ça demande un certain temps pour l'établir. Et voilà, moi, évidemment que sur la question des études et des effets sur la santé, on est un peu obligé de s'en référer à des tiers en qui on a confiance. Ouais. Et à titre personnel, j'ai beaucoup plus confiance dans des scientifiques indépendants qui alertent et qui demandent un moratoire. Il y a eu un appel de 170 scientifiques issus de 37 pays en 2017 qui demandaient un moratoire sur la 5G. En revanche, les études, quand elles sont financées ou commandité par l'industrie numérique m'intéresse peu et j'accorde à peu près aucun crédit. Donc voilà, après moi, à titre individuel, je suis incapable de me prononcer, bien sûr, sur la réalité de ces questions.
Je me tourne vers Jacques Moulin. Qu'on soit pour ou contre la 5G, il faut reconnaître qu'objectivement, avec la 5G, on va remplacer tous nos objets du quotidien, sans parler de l'obsolescence programmée. Pour l'environnement, c'est pas une bonne nouvelle.
Non, on peut pas dire ça. D'abord, il ne faut pas avoir cette vision extrémiste avec nous allons remplacer tous les objets du quotidien. La logique...
Bah déjà, peut-être le milliard de téléphones portables, on va devoir le remplacer pour avoir la 5G.
6 milliards.
Certes, mais déjà, ce que l'on peut noter, c'est que l'industrie des télécoms, en global, a pris ce sujet à bras le corps. Hein. Je rappelle d'ailleurs que l'Organisation internationale des télécoms a demandé, avec la 5G, de réduire d'un facteur 100 tout ce qui était l'empreinte carbone. Je rappelle que la GSMA a demandé aussi le zéro empreinte carbone en 2050. Orange, par exemple, le groupe Orange s'est engagé pour 2040. On assiste aussi à tout un phénomène de recyclage, qui est bien évidemment celui des terminaux. Après, il y a un travail qui doit être fait, ça c'est vrai, sur l'éducation, sur les usages, mais ça n'a strictement rien à voir. C'est un petit peu comme si on disait il faut supprimer le vin parce que effectivement il y a un risque d'addiction et d'alcoolisme. C'est à peu près la même chose.
Je suis d'accord avec vous, mais vous ne répondez pas à ma question. Si on vous dit mon téléphone qui est tout neuf, il peut plus fonctionner parce qu'on passe à la 5G, il y a bien on va être obligé de le mettre à la poubelle. Pardon de vous dire
non,
ça.
Alors tout d'abord, il y a des téléphones qui sont d'ores et déjà compatibles. Je tiens d'ailleurs à dire juste un point, c'est que les expérimentations 5G existent aussi en France. Elles ont lieu. Elles ont lieu à Rennes. À la gare de Rennes, par exemple, SNCF, Nokia et Orange font des expérimentations. Il y en a dans d'autres villes.
Ne dites pas ça, Yves-Marie va plus jamais aller à Rennes en train. Yves-Marie, je vous laisse le mot de la fin. Le temps coule trop vite dans ce sujet.
Non, mais sur l'impact écologique, je pense que là, il n'y a à peu près aucun débat à avoir. Aujourd'hui, le numérique, ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est supérieur au secteur aérien.
Ouais.
La 5G nous promet d'être 3 fois plus énergivore que la 4G. Évidemment, puisqu'on veut connecter 22 milliards d'objets.
Attention, il n'est pas d'accord avec vous.
Non, mais excusez-moi, mais là, du coup, je me permets de finir. On promet de connecter 22 milliards d'objets. Évidemment qu'il va falloir renouveler les smartphones. Et donc, il y a le coût en extraction de métaux rares. Donc, ce qui est programmé sur le numérique, c'est 7,5% des émissions de gaz à effet de serre en 2025, alors qu'il faudrait entamer une baisse. Je vous rappelle qu'on est face à des catastrophes écologiques énormes et que notre urgence, c'est plutôt de préserver le vivant plutôt que toujours vouloir plus nous connecter à l'infini.
Efficacité énergétique de la 5G, 10 fois meilleure que celle de la 4G. Donc ça, je regrette, les études sont là, elles le prouvent.
On va s'arrêter sur ces deux chiffres contradictoires qui donnent à réfléchir et
je sens que le débat n'est pas
clos, mais encore faut-il accepter ces études scientifiques.
Voilà.
Le débat est très bon et je donne la victoire à personne. Merci beaucoup Jacques Moulin, je rappelle, vous êtes directeur général du think tank pionnier dans le domaine du numérique, il s'appelle iDead Digi World, et Yves-Marie, cofondateur de Lève les yeux, collectif contre l'addiction aux écrans et pour la déconnexion. Merci.